Radio Barc, notre 24e. Bonjour Michel.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Alain Perea.
Bonjour.
Député donc La République en marche pour député de l'Aude. Je tiens à cette étiquette parce que sinon, si je disais député de Narbonne, je me ferais voler dans les plumes par notre par mon congénère d'aujourd'hui. Donc voilà, je dis bien député de l'Aude. Et on reviendra bien entendu dans une troisième partie à l'Impéria sur votre rôle, sur ce que vous faites actuellement. Et ben, à droite, à gauche, je n'en dis pas plus. Je laisse le suspense intégral. Notre sommaire, nous commencerons par, alors là il va falloir que tu expliques un petit peu la langue française, Michel, le ourvari sur les réseaux sociaux après le discours de Emmanuel Macron aux Bernardins. Ensuite, eh bien, un communiqué de presse de Madame Delga sur la casse de la SNCF. Tu aimes bien d'ailleurs traiter les interventions de Madame Delga en général.
Ah, je trouve ce communiqué
très synthétique. Ça t'inspire. Dans une deuxième partie, le titre d'un billet que tu as écrit récemment, « Que sont devenues les idoles politiques d'antan pour les étudiants en lutte ?» Et le « en lutte », tu le mets entre guillemets. Je cite. Et nous finirons par un petit mot sur le Racing. Alors Narbonnais, retour au pays, celui-là, un Racing dans la grande incertitude. Enfin, on verra ce qu'on peut en dire aujourd'hui. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un ourvari pour les gens qui ne pratiquent pas quotidiennement la chasse à cour? Et je doute que parmi nos auditeurs, il y en ait beaucoup.
Ourvari, Jean-Claude,
c'est un cri, quoi.
Non, attends, c'est plus qu'un cri, c'est un vacarme général qui se produit lors d'un type de chasse que ne pratique pas d'ailleurs notre invité, en fait, à l'Impéria, que je sache en tout cas, hein, qui est la chasse à cour. C'est un vacarme général. Corps, en fait,
c'est un peu le taillot, quoi.
C'est ça, un peu, les chiens qui aboient, en fait, les corps qui clament, enfin bref, c'est le gros. En d'autres termes, comme le dit mon petit-fils, c'est un pétage de câble, enfin, un pétage de câble, mais généralisé sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter et Facebook notamment.
Qui pourtant s'y connaissent en pétage de câble, les réseaux sociaux.
Ah oui, mais là, c'est quand même habitué. Là, c'était vraiment un pétage de pétage, puissance 15, 30, quoi. Bon, c'est un truc de fou, quoi.
Alors.
Et un pétage après le discours de Macron, en fait, au Bernardin. Un discours, entre parenthèses, c'est mon point de vue, puisque j'ai pris le temps de le lire, le crayon à la main, quand il s'agit de discours de ce type, hein, sur des sujets très importants, hein, brillant, en fait, très référencé, enfin, etc. Mais problème, comme toujours, en fait, dans ce genre de situation, de circonstances, c'est que les journalistes qui lancent sur les réseaux sociaux, en fait, des titres ou des petites phrases, hein, choisissent toujours, comme je l'ai déjà observé ici, la petite phrase qui va faire monter, en fait, aux extrêmes, effectivement, tous les auditeurs, tous les lecteurs, tous les téléspectateurs.
Et évidemment, le but sorti étant, de son contexte, comme toujours.
Évidemment, le but étant d'attirer l'attention et surtout d'hystériser, faites attention, pour faire de la pub, effectivement, de son média. Oui. Et c'est ce qui est arrivé, effectivement, sur les réseaux sociaux. Les meutes.
Donc, selon ces réseaux sociaux, pour M. Macron, ça serait l'alali de la laïcité.
C'est ça. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé ce ourvari en question, parce qu'il y a eu un lâchage de meutes, en fait, de meutes, justement, donc, chasse à cour, hein, généralisé sur ces réseaux sociaux, autour, et en ne prenant qu'une petite phrase, enfin, la moitié d'une phrase, plus précisément, la moitié d'une petite phrase, à savoir, voyons voir que je retrouve ça, nous partagerons confusément, c'est pas moi, hein, nous partagerons confusément le sentiment que le lien entre l'Église et l'État, s'est abîmé, et qu'il nous importe à vous, catholiques, hein, évêques de France, hein, de le réparer.
Voilà. Il me semble que le confusément a son importance là.
Non, mais le confusément,
fait une distanciation.
Alors, sur les réseaux sociaux, donc ceux qui ont les chefs de meute qui sont mobilisés ont déjà gommé le confusément. Ah, donc ils ont retenu qu'effectivement le lien, hein, le lien entre l'État. Alors évidemment, quoi, les chefs de meute en question, quoi? Le lien a été rompu en 1905, hein, avec la République.
La loi de séparation de l'Église et de l'État, etc.
C'est scandaleux, en fait. On remet en question fondamentalement.
Précise quand même ceux qui ont aboyé très fort. Quelques noms, ça va nous... Ça va nous renseigner,
la
quand
France
même.
Insoumise, les partis de gauche, en fait, ceux qui en restent, en tout cas, en fait, la gauche socialiste, en fait, une partie de la droite, en fait, qui s'est insoumises aussi, les printemps des républicains qui se veulent des gens de gauche, bon, républicains purs et durs et laïcistes. Alors je mets laïcistes entre guillemets parce qu'ils n'aimeraient pas ça en fait, hein, parce qu'ils se prétendent pas, ils ne se prétendent pas justement laïcistes. Hein. Ils se prétendent être sur la ligne de crête qui est très fine, hein, entre le laïcisme et puis la laïcité identitaire.
Enfin, bon, j'aime bien la ligne de crête, celle qui est tout au sommet.
Mais qui est très fine, hein. On peut tomber très rapidement à gauche, à droite.
Permets, on peut se casser la gueule facilement.
Oui, mais se faire très mal, quoi. Hein. Ils sont cette ligne de crête-là, et là, ils se sont justement plantés, mais radicalement, si je puis dire, quoi. Hein, parce qu'effectivement, rien dans ce discours, en fait, hein, et surtout dans les termes qui ont été utilisés, ne permet de dire cela. Quand il prononce ce terme de lien, en fait, Macron, il ne parle pas, enfin, il ne pense pas une seule seconde au lien juridico-politique entre la République et les catholiques. Il parle des liens en général, des liens sociaux et des liens politiques.
Ce que l'on sent confusément, justement.
Premier point. Deuxième problème. Et deuxième point, quand il fait référence à l'Église, mais c'est là aussi, mais je crois que chaque fois, il faut faire quand même une explication de texte et de mots, en fait. Hein. Jean-Claude, on vit une époque vraiment, je ferme la parenthèse. Au sens, justement, catholique du terme. L'Église, non pas en tant qu'institution, mais en tant que la communauté des croyances. C'est-à-dire tous les catholiques de manière générale, qu'ils soient pratiquants, pas pratiquants, culturels, tout ce qu'on voudra.
Voilà. Hein. Qui, rappelons-le, existe encore en France.
Mais bien sûr. Donc, c'est ça qui m'a mis très en colère. Je ne l'ai pas exprimé de cette manière aussi vive, en fait, sur mon blog, en fait, puisque je l'ai argumenté de manière beaucoup plus, comment dirais-je, structurée, en citant le texte de Macron, etc. Mais je trouve quand même qu'on dépasse les limites du débat démocratique. Autant on peut le critiquer sur certains aspects de ce discours, qui, comme par hasard, d'ailleurs, n'ont pas été relevés, hein, parce que, bon, pour un tas de raisons philosophiques et politiques, mais autant sur ce point-là, franchement, c'était d'une stupidité totale. Que dans le texte en question, il dit bien, Macron, que jusqu'à aujourd'hui, et il a raison, hein, les catholiques, d'une manière générale, ont été instrumentalisés par les politiques, et notamment les partis politiques de gouvernement. La droite d'un côté, qui en a fait une espèce de groupe identitaire, en fait, donc, qui a ramené les catholiques à un électorat qui devrait être captif d'une certaine droite, extrême droite. Hein. Et puis à gauche, bon, on a considéré que c'était des gens qui posaient un problème de nature philosophique et politique, et avec elles, il ne fallait même pas discuter, en fait, ou même pas les écouter.
Bon, le lien est plus que confus. Voilà. C'est qu'en réalité, il existe.
Je veux sortir de cette prise en otage par les deux camps, et donc je vous adresse à vous tous, et je vous dis, je vous écouterai, je vous entendrai, mais, précise-t-il dans le corps de son texte, chacun a son niveau de responsabilité et chacun sur son plan.
Quel est le ressenti du député, très brièvement là-dessus, qui fait partie de la majorité macronienne quand même? Quel est votre ressenti, Alain Perea?
Alors, c'est un concept sur lequel j'ai beaucoup travaillé, la laïcité. Et j'ai rédigé un texte qui sera dans les jours qui viennent ou les heures qui viennent, même sur mon site internet, parce que parmi les personnes qui ont fait beaucoup de bruit contre cette intervention, il y en a un qui fait partie de notre groupe majoritaire et qui s'appelle Manuel Valls. Emmanuel Valls a fait une intervention dans le Parisien en demandant au président de la République de se positionner par rapport à la laïcité. Et je me suis autorisé, pour deux raisons, à envoyer un mail à l'ensemble des députés de la République en marche, et donc plus particulièrement à Manuel Valls, pour lui dire deux choses. La première, mais Michel Santo l'a très bien dit, c'est qu'il faut sortir d'un dogme de laïcité et être sur une laïcité d'ouverture. Et ce que nous prenons en marche, c'est d'arrêter d'être dans cette logique-là où, à partir du moment où c'est religieux, on n'en parle pas. Et la deuxième chose, donc pour terminer, c'était de dire à Manuel Valls qu'il était le bienvenu dans notre groupe, hein, et je suis moi très heureux et honoré de siéger à ses côtés, mais il ne faut pas qu'il importe, hein, au sein de notre groupe, hein, les démons du Parti Socialiste.
Voilà qui est clairement dit. Alors, deuxième partie de ce sommet, un petit mot sur le communiqué de Mme Delga concernant la SNCF et la, entre guillemets, casse.
Oui, c'est le titre de ce communiqué qui m'a fait bondir, en fait. Hein. Je ne serai pas de celles qui participeront, en fait. Hein. l'ensemble des présidents de région, à la casse de la SNCF. La casse de la SNCF. La casse de la SNCF. Alors que Mme Delga vient de signer, en fait, à la fin de l'année 2017, une convention avec la SNCF
pour en 2018. En tant que présidente de la région, 2018, justement.
Hein, parce qu'elle a la compétence des transports régionaux, donc les transports ferrés, d'un montant de 228 millions d'euros, je crois, ou 200, j'arrondis à 230, pour aller vite, quoi, 230 millions d'euros. Et convention qui a été négociée, bon, voilà, tranquillement, en fait, si je puis dire, et sans aucun problème.
Voilà. Et donc, elle prend le contre-pied.
La grève, boum, étant partie.
Bon, c'est une...
Évidemment, Madame Delga, socialiste.
Ouais, voilà, c'est une position politicienne, purement politicienne, on a l'impression.
Prend parti, en fait, et sort un communiqué d'une violence inouïe. Alors, d'autant que dans la convention en question pour 2018, mais pour les autres aussi, il n'est pas question en fait hein, de supprimer des lignes, des petites lignes.
Oui, enfin,
bon, le président l'a encore rappelé, mais il n'a jamais été question. Là, c'est pareil. On a pris un bout de phrase, en fait, un bout d'un rapport, oui, du rapport Spinetta, et puis on tape là-dessus. Donc il n'y en est pas question, puisque encore une fois, ouvrir ou fermer des petites lignes, ce sera de la compétence des régions et des régions seules qui négocieront avec elles les conditions.
Donc de Mme Delga. Voilà. Donc la casse de
la casse.
Pour qu'il y ait casse, il faudrait qu'elle veuille y participer elle-même.
Bien entendu. Et ensuite, bon, il n'y a pas de comment dirais-je, de passage de la SNCF au privé, puisqu'encore une fois, bon, la structure qui va être mise en place.
Ce qui a été dit. Redit et réaffirmé non plus. Ben bon.
Ce qui.
Encore un procès, encore un procès.
Mais d'autant plus agacé quand même, c'est que elle devrait savoir, Madame Delga, qu'on est bigrement concerné dans cette région, parce qu'elle-même, qui ne cesse de dire, je veux un TGV entre Toulouse et Bordeaux. Voilà, je veux un TGV entre Montpellier, en fait, et Perpignan. Ça coûte, en fait, des milliards d'euros, quoi. Alors qu'elle sait très bien que la SNCF est en déficit de 46 milliards d'euros.
Milliards
d'euros. Ouais, ouais. Et que chaque année, c'est 3 milliards d'euros de déficit d'exploitation qui tombent, hein. Et cerise sur le gâteau, hein. Ce que un certain nombre d'auditeurs ne connaissent pas, peut-être, Madame Delga non plus, c'est que il y a ce qu'on appelle les déficits masqués. Un exemple, dans notre région.
Très vite, il faut conclure.
Le contournement Nîmes-Montpellier. L'équilibre de ce contournement a été basé sur un rythme de TGV de 30 par jour. Il n'y en a que 4 qui passent aujourd'hui. D'accord? Et qui passeront 4 encore pendant au moins 10 ans. Ça veut dire que pendant 10 ans, hein, sur cette ligne, il va y avoir un déficit, ce contournement, un déficit qui va se chiffrer en gros entre 5 et 10 milliards, qui n'apparaît pas aujourd'hui dans les comptes, mais qui va apparaître. Donc, si je devais donner un conseil à Madame Delga, quoi, hein, c'est que, un, bon, elle intitule ses communiqués de manière un peu moins agressive, que deux, bon, elle étudie ses dossiers, et que trois, elle fasse moins de politique politicienne.
Voilà. Et on marque une première pause.
Radio Barque. Contre-regard sur l'actualité narbonnaise.